9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Pour la 14e émission de l'année 2022, la 3e émission durant cette période de Ramadan, Maître Serran vous salue. Alors, j'ai une petite voix qui traduit quelque peu ma fatigue et surtout ma soif. Car hier, je me suis levé 3 minutes trop tard pour boire et donc au moment où je vous parle, j'ai soif, très très soif. Bon, c'est vrai, plus que quelques heures, vous me direz, pour manger certes et boire surtout. Et je sais tout de suite comment ça va se passer. Je vais me jeter sur une bouteille d'eau fraîche et ensuite j'aurai tellement mal au ventre que je ne pourrai même plus manger. Toujours est-il que je suis ravi de vous retrouver malgré l'absence, mon cher Philippe, de mon chocolat du matin. Mais je suis optimiste car la fin du Ramadan commence à pointer le bout de son nez. Mais assez parlé de mon Ramadan qui, j'en suis sûr, n'intéresse aucunement
personne,
nos auditeurs.
Personne.
L'actualité de la semaine. Bon, vous l'aurez probablement deviné, Maître Serran va vous parler de ce qui s'est passé le 20 avril à 21h, le face-à-face Macron-Le Pen, qui n'a pas réuni les foules, hein, environ 15 millions de personnes, alors que moi, tout seul, je fais près de 20 millions d'auditeurs, mon cher Philippe. Alors, soit les Français se foutent de la politique, soit ils pensent que de toute manière, les élections sont pliées, car Macron sera président. Et après avoir suivi ce débat, je pense qu'effectivement, Macron sera président. Macron arrogant, qui s'est comporté comme un prof face à un élève. Le type avait un comportement presque, je m'en foutiste, hein. Il aurait pu se gratter les couilles sur le plateau, ça n'aurait dérangé personne. On a vu une Marine Le Pen qui, probablement hantée par son débat loupé d'il y a 5 ans, était tout en retenue de peur de bugger à nouveau. Alors qu'on n'a pas arrêté de nous dire qu'elle s'était préparée comme jamais, qu'elle s'était isolée pour s'entraîner comme Rocky Balboa avant son combat contre Drago. Vous savez, ce Ruskov qui semblait indestructible et qui s'est fait plier par Balboa. Je sais, mon cher Philippe, ma culture cinématographique est impressionnante. Et malgré ce prétendu entraînement, la copie ne mérite pas la moyenne, mais bordel. Elle a eu 5 ans pour se préparer, pour maîtriser ses dossiers. Et dès les premiers échanges, on sent qu'elle était hésitante. Alors soit les conseillers sont des bras cassés, soit Marine Le Pen n'est définitivement pas faite pour le job de président. Et heureusement, car dédiabolisation ou pas, je constate que les chiens ne font pas des chats. Elle est bien la digne héritière de son père. Chez les Le Pen, on est manifestement hanté par les musulmans. Le Jean-Marie a biberonné ses enfants à la haine du bougnoul, probablement conséquence de la guerre d'Algérie, où il s'en est donné à cœur joie d'ailleurs. On a un pays où le peuple ne s'en sort plus et une Marine Le Pen qui propose notamment comme mesure d'interdire le port du voile sur la voie publique. C'est quand même une curieuse mesure. Tu crois vraiment qu'une telle mesure va redonner le moral au pays, relancer l'économie? Et là, Macron l'a bien dit, si une telle mesure devait être appliquée en France, ce serait la guerre civile. T'imagines la police venir voir ta mère, ta sœur et lui dire « Madame, le voile, faut le retirer. » Et d'ailleurs, quel est le policier qui pourrait aller voir une Chebaniya et lui dire une telle bêtise? Pauvre Marine, pourquoi tant de mépris à l'égard des musulmans? Bon, de toute manière, la question ne se pose plus, elle ne sera jamais présidente. Donc, puisque la grande majorité de nos auditeurs ne risque plus d'être expulsés, je les invite à appeler le 01 53 48 3000 pour poser leurs questions et émissions sous le contrôle de celui qui pourra peut-être être appelé en qualité de Premier ministre, Monsieur Philippe Robichon. À vous, maestro.
Maître Serran, alors ça n'engage que vous, ces propos, hein.
À propos quoi, de Le Pen ou en qualité de Premier ministre?
Non, de tout.
Vous avez eu des contacts?
Ah non, rien du tout. Non. Rien du tout.
Même pas un petit poste, juste ministre.
Non, rien. Adil Farkan, lui, oui.
Carrément.
Ouais, je crois qu'on parle d'un secrétariat d'État.
Non.
Ouais, pour Adil
Farkan. Moi, j'ai quelques informations, Maître Serran, si ça vous intéresse. Ouais. J'ai quand même vous dire que Philippe Robichon pourrait être conseiller en communication du gouvernement, parce qu'ils ont fait quelques ratés sur la saison précédente.
Ils en ont fait, ouais. Ils ont vraiment besoin de ça, ouais.
Il sera à l'interface avec les gilets jaunes.
Ah ouais. J'étais candidat, mais pas vraiment de ce genre de... Non.
Ah ouais, ça vous botte pas un petit poste?
Non.
On est payé à rien foutre. Non, parce que là, vous êtes pas payé, vous travaillez, mais là, ce serait l'inverse.
Non, ils bossent, les gars.
D'accord. Ok, non, moi aussi je bosse.
Ça m'intéresse pas beaucoup, franchement.
Non,
pas du tout. On doit s'ennuyer beaucoup en politique.
Ah bon?
Ah ouais. Vous croyez pas, Maître Serran?
Bah écoutez, je sais
bon,
pas.
Bon, de toute façon, vous tenez le bon bout, il est 9h04, plus que 12 heures.
Ouais, mais j'ai
plus que 12 heures et vous pourrez boire. Donc franchement, vous tenez vraiment
le bon bout. Je suis ravi de savoir.
Tout va bien se passer, vous allez voir, ça va pas du tout être long.
J'ai les lèvres sèches.
Ouais.
Et j'ai soif.
Et vous avez soif?
Ouais, voilà.
Mais le corps s'habitue à la soif?
Non. Non, j'ai soif là. Mon corps s'habitue pas. Là,
non, pas du tout.
Je le confirme. En tout cas, pas mon cerveau.
Mais vous avez soif de quoi? Donnez-nous un exemple. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir là maintenant à
9h05? Ah non, mais moi, je suis un type simple. Ouais, de l'eau, ce serait. Alors pas trop fraîche, évidemment, mais de l'eau. Ce serait possible ou pas à titre exceptionnel?
Ben écoutez, je vais réveiller l'imam.
Ouais, s'il vous plaît.
Je vais voir
s'il
vous plaît, peut faire quelque chose. Ouais. Un petit aden.
Quand il aura terminé son petit déjeuner, il faut le laisser quand même manger tranquillement. On va pas le déranger, miskin.
C'est pas bien. C'est-à-dire qu'on était en train d'écouter un podcast avant cette émission d'un gars qui courait le marathon pendant le ramadan.
Ouais, c'est vrai. Enfin, c'est un truc de fou quand même, non?
Le gars, il faisait des boucles autour de Paris pendant le ramadan. Ah, regardez, lui, il a pas soif.
Non. Mais je sais pas, moi je trouve ça exceptionnel. Enfin, mais d'abord inutile, parce que ça sert à rien non plus de torturer son corps, mais je trouve ça exceptionnel.
Non, mais c'est incroyable.
C'est
vraiment
pendant le ramadan. Non, moi je pourrais pas le faire.
Avec des potes en plus.
Oui, hein. Avec des potes. Ouais.
Pour comme ça, pour s'occuper, ils courent le marathon autour de Paris, ils font des boucles autour de Paris.
Écoutez, c'est le ramadan en ce moment, on peut aller courir ensemble si vous le souhaitez.
Non.
Faire du vélo peut-être.
Du vélo, oui. Non, mais ça c'est vrai. Le vélo c'est plus facile. Vous voulez qu'on en parle, Maître Serran? Maître Serran a fait du vélo et malheureusement son anatomie n'est plus adaptée au vélo.
Ouais. Ah non, j'ai mal au fiacre d'une force. Pourtant j'en ai pas fait beaucoup. Avec un vélo en plus extraordinaire, ce que je vous disais.
Avec une selle molletonnée.
Ouais, avec une vraie selle et tout. Ouais. Et puis je sais pas quoi là. J'ai.
Faites du tandem.
Là j'ai mal.
Faites du sidecar.
Ouais, peut-être. Ouais.
Mais vous avez mal où précisément?
Au niveau du truc, il y a un os au niveau entre les deux fesses.
Le coccyx.
Ouais, je crois que ça s'appelle comme ça. Ouais. Bon, je sais pas. Il doit être tout bleu, j'imagine.
On va vous trouver un robot. Il faudrait demander à Madame Serran.
Bah écoutez, je vais faire le poirier tout à l'heure et puis je vais demander à ce qu'on examine tout ça. Mais c'est qui en parle? Je vous ai dit de pas en parler. Vous
c'est
en
vous
parlez.
Qui m'avez lancé sur votre vélo. Voilà. Bien, alors on va essayer d'enchaîner, ce qui est pas toujours facile. Vous nous proposez alors un sujet inédit, Maître Serran, dans cette émission. Les personnes qui perdent la vie au cours d'un accident. D'ailleurs, c'est même pas un incident, c'est un accident de la route et qui pourraient être indemnisées. Alors, dans quel cas est-ce qu'on peut être indemnisé? Évidemment, la personne qui est décédée peut pas être indemnisée, mais dans quel cas, on va dire les ayants droit, les héritiers peuvent-ils demander une indemnisation?
Voilà, l'hypothèse est la suivante. Alors pareil, j'évoquerai le cas qu'on est en train de gérer au cabinet, mais l'hypothèse est la suivante. C'est-à-dire, il y a un accident de la route, entre guillemets, avec de gros guillemets banals, et puis les conséquences sont assez dramatiques, puisque il y a un décès à la suite de cet accident. Il peut y avoir, dans un premier temps, d'abord, le raisonnement étant de dire, c'est la faute à pas de chance. Bon, voilà, il n'y a pas eu d'excès de vitesse, le type n'était pas sous l'emprise de la drogue, il n'était pas alcoolisé, et puis, bon, voilà, faute à pas de chance, et à partir de ce moment-là, ça relève exclusivement de la compétence de la compagnie d'assurance. Alors, de la compagnie d'assurance de l'auteur des faits. Et je rappelle, et on l'avait déjà dit, vous voyez, par exemple, dans ce type de situation, il vaut mieux, quand vous prenez le volant, être assuré, par exemple. Parce que si il devait se passer un truc aussi gravissime et que vous n'êtes pas assuré, votre compagnie d'assurance, qui n'existe pas, interviendra pas. Donc, ce sera à votre charge. C'est-à-dire que l'État va indemniser la victime ou la famille de la victime, mais l'État va vouloir récupérer son argent. Donc, en règle générale, ce sont des dettes qui sont élevées. Donc, vous serez, j'allais presque dire, condamné à vie.
Vous êtes insolvable même dans ces cas-là.
Alors, c'est heureusement pour la victime, il y a un fonds de garantie qui va indemniser les victimes. Mais voilà, on va se retourner contre vous. Et j'allais presque dire, à partir du moment où vous allez vous mettre à travailler ou s'il y a un peu d'argent qui rentre, de facto, il va y avoir une saisie de ces sommes d'argent. Donc déjà, on rappelle qu'il vaut mieux éviter de conduire sans assurance, parce que malheureusement, ce genre d'accident peut arriver. Donc ça, c'est le cas, entre guillemets, classique, où on se rend compte, encore une fois, que c'est à la faute à pas de chance. Sauf que il arrive parfois qu'après enquête, on constate que l'auteur de cet accident roulé peut-être un peu trop vite, donc excès de vitesse, que l'auteur de cet accident était au téléphone à ce moment-là, que l'auteur de cet accident était alcoolisé d'une drogue quelconque. Et là, on bascule. Là, on n'est plus simplement sur une responsabilité civile, mais on est sur une responsabilité pénale. Ce qui signifie qu'il va y avoir une enquête de police, une enquête de gendarmerie. Et à partir du moment où il y a ce type d'enquête, la famille de la victime, les parents, donc l'épouse, les parents de l'intéressé, ses enfants éventuellement, donc ils vont être invités éventuellement à intervenir en qualité de partie civile. Alors c'est important hein, de se constituer, comme on dit, partie civile, puisque la partie civile, à partir du moment où vous êtes manifesté, vous allez, entre guillemets, faire partie de ce dossier. Votre avocat aura la possibilité de consulter le dossier, de voir un peu toutes les étapes, voir un peu ce qui s'est réellement passé, voir un peu quelles sont les éventuelles responsabilités, puisqu'en la matière, on parle d'homicide involontaire. Alors, il est certain que le type a pas voulu tuer la victime, mais les conséquences de son comportement font qu'on a un décès. Et l'intérêt de se constituer partie civile, c'est d'abord, est-ce qu'on peut comprendre pour les familles, d'essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé, et puis d'être entendu, puisqu'il y aura un procès devant un tribunal correctionnel, donc le ou les membres de la famille vont venir s'expliquer, raconter un peu la situation. Alors, la situation, comme dit Aude, plutôt les conséquences du décès de l'intéressé, les conséquences de l'absence de l'intéressé. Et à ce procès, vous aurez là aussi la compagnie d'assurance, si tant est que l'auteur de cet accident gravissime soit assuré. Donc la compagnie d'assurance et le relationnel, ou en tout cas parfois qui se transforme en combat avec la compagnie d'assurance, va être important, puisque vous avez bien compris que même si évidemment on va être indemnisé, ça rapportera pas l'intéressé, il ne reviendra pas à la vie, mais les conséquences financières vont être importantes. Donc il faut, autant que faire se peut, dans ce type de dossier qui peut sembler entre guillemets simple à gérer, puisque la compagnie d'assurance va vous faire une proposition d'indemnisation, faut toujours faire attention. C'est de bonne guerre, le rôle de la compagnie d'assurance est de vous proposer, alors certes une indemnisation, mais ce sera toujours au plus bas. Donc faites en sorte quand même d'être accompagné par un avocat en la matière, donc qui essaiera d'ajuster le montant de l'indemnisation. Et c'est une indemnisation qui va dépendre de plusieurs paramètres. Et d'abord, il y a l'aspect purement financier, c'est-à-dire que celui qui est décédé, qu'est-ce qu'il faisait précisément dans sa vie professionnelle? Est-ce qu'il était entre guillemets soutien de famille? Est-ce qu'il était le seul à travailler? Et on comprend bien que si cette personne décède, évidemment, il y a un trou dans le budget. Donc on va faire en sorte que l'indemnisation puisse prendre ça en considération. On va prendre en considération également le relationnel entre l'intéressé, éventuellement, alors un concubin ou une épouse. Et c'est là où je vous disais, on a une situation, moi, dans mon dossier, qui est assez particulière, parce que j'interviens pas pour l'épouse, mais j'interviens pour la maîtresse de celui qui est décédé. Ah oui, parfois on découvre des choses choses assez catastrophiques.
La maîtresse n'a aucun droit.
Dans des situations très catastrophiques, parfois on découvre des choses assez particulières. Ce monsieur qui est décédé était en instance de divorce, mais le divorce n'est pas prononcé. Et le préjudice affectif, c'est ça. Préjudice affectif, il est certain que si vous êtes encore avec votre épouse, le préjudice affectif va être chiffré, entre guillemets, grandement. Mais là, les liens se sont distendus et on a un préjudice affectif qui concerne, alors certes, l'épouse, enfin qui est toujours l'épouse d'ailleurs, mais sauf que si vous vivez pas avec madame et que vous partagez votre lit avec une autre femme, elle peut, encore une fois, et là en l'occurrence on le fait, c'est normal, elle partage entre guillemets sa vie avec lui, donc il y a un préjudice affectif, il n'y a pas besoin d'être marié. Ouais, le truc, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être l'époux d'eux ou l'épouse d'eux pour avoir ce préjudice affectif, mais on peut le comprendre. On va prendre en considération, et entre guillemets, on a été questionné là-dessus, c'est-à-dire depuis combien de temps vous connaissez, est-ce que effectivement vous avez partagé un domicile commun, et alors c'était un amour entre guillemets plus ou moins caché, donc vous imaginez que l'épouse qui allait certes engager une procédure de divorce, qui se doutait de quelque chose, quand on lui met tout ça à la figure, elle a un peu moins de regrets du décès de monsieur. Donc c'est une situation.
Non, c'est une horreur.
C'est une situation un peu compliquée pour l'épouse légitime, on va dire, mais pour la maîtresse aussi. Alors le mot maîtresse, c'est peut-être pas le mot approprié. Enfin pour celle qui aurait pu être la seconde épouse de monsieur. Donc moi j'interviens pour cette demoiselle.
Et comment on chiffre alors
qui est très affectée,
un préjudice affectif.
Il n'y a pas de règles en la matière. Encore une fois, c'est pour ça que je vous dis cette étude, pour pas dire une enquête du relationnel, est importante. Il est certain que si cette seconde demoiselle n'avait pas existé, le préjudice aurait été davantage, enfin le montant aurait été davantage important pour l'épouse. Là, évidemment, il va être amputé puisque, et puis d'ailleurs, il y avait une procédure encore une fois de divorce, donc qui, par définition, ne pourra pas aboutir. Donc, il y a parfois ce côté, on va dire, que certains pourraient qualifier d'un peu glauque en la matière, mais c'est ce qui fait aussi le piment de la vie des uns et des autres et le piment de nos dossiers. Donc, ce préjudice va concerner. Et alors l'épouse, là en l'occurrence une maîtresse, mais il peut concerner également les parents de l'intéressé, il peut concerner les enfants de l'intéressé.
Bien, allez, vous posez vos questions à Maître Serran au 01 53 48 3000. Il a soif, mais bon, il répond à vos questions quand même. Tout fonctionne, le cerveau est intact.
Pour l'instant.
Hein, le neurone affûté, comme on dit. 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Et vous posez vos questions à Maître Serran au 01 53 48 3000. On va à Rouen et Samia est avec nous. Bonjour et bienvenue, Samia.
Bonjour.
Bonjour, Samia.
Salam alaikum à tout le monde, à toute l'équipe de Beurre FM.
Merci.
Donc en fait, je vous appelle parce que j'ai un problème assez complexe. J'ai vendu en fait une voiture il y a 5 ans, en 2016. Et cette personne n'a pas changé de carte grise pendant plus de 3 ans. Et en fait, toutes les amendes, je les recevais chez mes parents, parce que moi, je me suis mariée, enfin, j'étais mariée et tout, et j'habite plus dans ce domicile, et j'avais pas accès à ces amendes-là. Donc, ça a pris une ampleur, une très grosse ampleur. J'ai plus de 5000 euros d'amende à mon insu, maintenant. Et mon permis est nul, donc j'ai un permis à zéro, mon permis est nul, et je ne peux pas porter plainte contre cette personne parce que c'est pas une usurpation d'identité, parce qu'en soi, il se faisait flasher tout le temps. Et là, aujourd'hui, je me retrouve dans une impasse parce que j'ai des saisies administratives, j'ai un permis qui est nul et je n'ai aucune réponse. Je ne peux rien faire. La préfecture ne me donne pas de réponse. Les services des amendes me disent que je dois quand même payer et après, c'est à moi de me démerder, clairement. Donc, je ne sais pas du tout quoi faire.
Alors, c'est des situations qui arrivent assez souvent, malheureusement, mais de votre côté, en règle générale, quand on cède un véhicule, on fait quand même, enfin l'ancien propriétaire que vous étiez doit aussi faire la démarche et prévenir les autorités préfectorales en envoyant le formulaire pour dire j'ai cédé mon véhicule.
Alors c'est exactement ce que j'ai fait, sauf que la préfecture me dit qu'ils n'ont rien. Et en fait ce véhicule-là j'avais envoyé l'original, j'ai pas fait de photocopie. Donc je me retrouve à ne pas avoir de papier de vente. Et ça m'est arrivé avec un autre véhicule, sauf que là, j'avais fait la photocopie et du coup, j'ai pu prouver que j'avais vendu ce véhicule.
Ouais, alors évidemment, comme dirait l'autre, c'est vraiment le premier réflexe à avoir. C'est-à-dire que on envoie évidemment l'original, mais on conserve la copie à minima et on l'envoie en recommandé à R. Voilà, pour être certain qu'il n'y ait pas de difficulté. Donc, ce qui veut dire qu'en gros, vous n'arrivez même pas à prouver que le véhicule, vous l'avez cédé.
Bah en fait oui, maintenant oui, parce qu'il a changé la carte grise, ça va faire 2 ans.
D'accord.
Sauf que donc comme je leur ai dit, donc s'il a fait la carte grise, ça veut dire qu'il a fait un faux, parce que moi je l'ai vendu 3 ans avant la date où il a changé la carte grise. Parce qu'en fait l'imprimé il a changé la carte grise et c'est la gendarmerie qui m'a appelé parce qu'il a fait un délit de fuite avec la voiture, il a fait un petit accident sur l'autoroute tout seul, et il a fait un délit de fuite. Et en fait la gendarmerie est partie directement chez mes parents. Et de là, ma mère, elle leur a donné mon numéro de téléphone, ils m'ont appelé. Et c'est de là que j'ai su en fait toute l'histoire et tout ce qu'il y a eu, quoi.
Et vous avez les coordonnées de ce type-là? C'est-à-dire que vous savez où il habite? On peut le localiser?
Oui, alors il y a 2 ans de ça, quand j'ai eu l'appel de la gendarmerie, mon mari est parti dans le secteur parce que je savais où il habitait, c'est dans la région parisienne. Et du coup, mon mari est parti, il a réussi à le trouver en demandant à des gens, donc il est parti chez lui. Et moi, je ne connaissais que son prénom et c'est tout, quoi. Je ne me souvenais plus de rien d'autre.
Je savais sa vie.
Parce qu'en fait, j'ai en la possession également le chèque de banque qui m'avait fait en février 2016.
Ouais.
Mais sur un chèque de banque, il n'y a que la ville et le nom de la banque, etc. On n'a pas les coordonnées de la personne. Voilà. Et au jour d'aujourd'hui, je me retrouve dans une impasse parce que je ne sais pas comment faire. Est-ce que je peux porter plainte ou pas? Parce qu'ils me disent que c'est pas une usurpation d'identité parce qu'il s'est pas fait passer pour moi. Donc, il s'est fait prendre.
C'est pas faux. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur ce qui s'appelle la responsabilité civile. C'est-à-dire que le type aurait dû faire des démarches et les démarches ne sont pas faites. Mais ce que vous me dites de la part des administrations qui vous invitent à régler et puis éventuellement vous récupérer votre argent plus tard. Alors ça, c'est pas une règle. C'est-à-dire que l'administration peut prendre ça en considération en disant que vous avez été vous-même floué et qu'ils peuvent se retourner directement contre ce type-là. Et puis, vous pouvez tomber sur des pénibles de service qui veulent pas s'embêter et puisqu'ils vous ont sous le coude, on va vous demander de régler. Et une fois que ce sera réglé, à charge pour vous de récupérer cet argent. Mais pour récupérer cet argent auprès de ce type indélicat, ça veut dire engager sa responsabilité. Et c'est pour ça que je vous disais, est-ce que vous arrivez à le localiser? Puisque pour assigner quelqu'un, il faut évidemment une adresse à minima.
Oui, donc ça oui, ça c'est bon.
Donc voilà, donc vous savez où il habite, il y a pas de difficulté. C'est-à-dire que si vous engagez un procès contre lui et qu'un huissier de justice débarque chez lui, il y a pas de problème. On est certain qu'il sera, comme on dit, touché par le document, par l'assignation.
Oui.
Bon, eh ben il y a pas, encore une fois, il y a pas d'autre option. Je le redis, si l'administration joue les pénibles. Encore une fois, ils sont pas obligés de le faire, mais en règle générale, ils vont pas se tracasser et eux-mêmes rechercher ce type-là, donc ils vont vous taper sur la tête. Mais vous, pour récupérer cet argent payé de manière injustifiée, vous serez obligé de vous retourner contre ce bonhomme. Vous n'avez pas contacté votre compagnie d'assurance pour voir s'il pouvait éventuellement prendre en charge, alors pas les amendes, mais éventuellement les frais de procédure, l'assurance de l'époque.
Bah en fait, ce véhicule-là, je l'ai acheté, je l'avais même pas, pour vous dire, je l'avais même pas tué, 2 mois après, je l'ai revendu.
Ah ouais, bon, bah voilà.
J'avais pas roulé avec cette voiture-là, c'est ce que je disais, c'est ce que j'ai expliqué même à la gendarmerie et tout, cette voiture-là, je n'ai même pas roulé avec, je l'ai acheté. Et après, en fait, vu que j'étais en pleine construction de ma maison, j'avais besoin finalement de cet argent-là, donc je l'ai revendu, en fait, elle était posée pendant 2 mois, je l'ai même pas,
Je rappelle quand même, à titre accessoire, qu'un véhicule qui est même posé dans un garage doit à minima être assuré. Il faut faire attention à ça, parce que s'il se passe n'importe quoi, il prend feu ou enfin n'importe quelle bêtise, évidemment, on est content à ce moment-là de se dire, tiens, je suis assuré. Donc même si on n'utilise pas un véhicule, à minima, il y a une assurance qui doit être prise. Vous voyez, et puis ça aurait pu vous soulager financièrement sur l'éventuelle procédure que vous serez amené à faire. Mais en plus, j'allais dire, vous avez pas le choix, parce que si vous faites pas ça, cet argent que vous allez verser pour les amendes et autres, vous pourrez jamais le récupérer. Donc à charge pour vous de vous retourner contre ce type-là et devant le tribunal civil. Évidemment, on va vous dire, bah écoutez, si vous réclamez le remboursement de telle ou telle somme, merci de me prouver que vous avez bien payé. Donc c'est vrai qu'il va falloir mettre d'abord la main à la poche.
Bah, en fait, là, en soi, pour le moment, ils ont réussi, parce que je reçois des saisies sur mon compte, ils ont réussi à saisir qu'une seule fois.
Ouais.
Après, je ne vais pas vous mentir, je joue un peu au chat à la souris avec eux, c'est-à-dire que dès que je reçois mon salaire ou dès que je reçois quelque chose, bah, je reçois tout de mon compte. Voilà.
Alors, j'entends bien, mais voyez, c'est une technique qui marche un moment, ils ne vous lâcheront pas. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que l'État a tout le temps du monde, donc ils ne vous lâcheront pas. Donc il faudra quand même. À un moment ou à un autre, régler cet aspect-là, quitte, même si ça peut sembler terrible pour vous, quitte à proposer un règlement en plusieurs fois, mais ce jeu du chat et de la souris, il n'y a qu'un seul vainqueur, c'est toujours l'État.
Hein. Oui, Ah oui, non, ça c'est sûr, mais c'est parce que là pour le moment, j'ai pas d'autres.
Ah non, mais j'entends bien, voilà, hein, c'est pas, je critique pas ce que vous dites, c'est légitime.
C'est pour ça que parce qu'en fait, hier, j'en parlais avec mon patron, il me disait de voir avec un avocat s'il n'y avait pas possibilité au moins de stopper la procédure de saisie, de paiement.
Non, la difficulté, madame, c'est que, à la limite, stopper la procédure de saisie, ce serait justifié que vous avez localisé le type indélicat et que vous allez vous retourner contre lui. Vous voyez, c'est-à-dire que vous envoyez une assignation à ce type-là pour dire voilà le comportement qu'il a eu et moi je veux engager sa responsabilité. Peut-être qu'avec la preuve de ce document, et je dis bien peut-être, il n'y a pas d'obligation, peut-être que l'administration cessera de vous embêter en attendant l'aboutissement de la procédure. Mais c'est peut-être, l'administration n'est pas obligée de le faire. Ils peuvent taper sur la tête de la personne dont le nom apparaissait sur la carte grise.
Parce que moi, là, au jour d'aujourd'hui, si je prends par exemple un avocat, vu que j'ai un chèque de banque, s'il peut prouver que le chèque de banque il date du 5 février 2016 quand même, donc lui, il a changé sa carte grise au mois de juin, 3 mois après, je crois 2018.
Ah non, mais je crois que vous avez, encore une fois, madame, tous les éléments. Vous voyez, c'est pas de votre côté un manque de preuves, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que vous ne pourrez pas faire l'économie de ce type de procédure.
D'accord. Mais est-ce que vous me conseillez quand même de prendre un avocat et puis de lancer une procédure?
Voilà, de toute manière, vous allez vous retrouver a priori devant un tribunal judiciaire. L'avocat est obligatoire, donc il faudra en prendre un.
D'accord, très bien. C'est ce que je vais faire. Voilà. Aujourd'hui, je n'ai pas le droit de porter plainte.
Non, c'est vrai qu'il n'y a pas d'usurpation d'identité. Et quand on vous répond ça, ils ont raison.
Oui. Donc même eux, ils essayaient de trouver un chef d'inculpation en fait pour pouvoir porter plainte, mais même eux, ils n'ont pas trouvé.
Non, on est sur l'aspect civil.
Donc ils m'ont dit qu'il s'était arrêté plusieurs fois et que sa carte grise n'est pas changée. Il a eu des amendes à son nom, mais c'est tout ce qu'ils peuvent faire, quoi, rien de plus.
Non, mais vous pourrez entre guillemets le tacler que sur l'aspect civil.
D'accord.
D'où la nécessité, l'obligation même de prendre un avocat pour qu'il puisse engager cette procédure.
D'accord, très bien. Merci pour vos réponses.
Merci à vous.
Merci Samia. Dans un instant, la suite de vos appels et de vos questions à Maître Serran. Vous nous appelez au 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Et Maître Serran qui répond à vos questions comme tous les vendredis au 01 53 48 3000. Nous avons Karim qui nous appelle de Grenoble. Bienvenue Karim.
Oui, bonjour.
Bonjour Karim.
Bonjour Karim.
Bonjour. Bonjour Maître Serran. Je voulais juste presque vous remercier. J'ai écouté votre émission, ça fait 3 ans maintenant, mars 2019, au sujet de ascendant à charge.
Ouais.
Les parents.
Donc, moi j'ai ma belle-mère qui a deux filles jumelles. Décédée, le mari. Elle était enceinte des deux jumelles. Le mari est décédé pendant 3 mois de grossesse. Bref. Je me suis marié en 2013 en Tunisie avec ma femme. Et donc, à chaque fois, je faisais des visas pour ma belle-mère. Et je devais aller à Tunis, moi, pour lui faire le visa et la ramener en France, ainsi de suite. Et dès que j'écoutais votre mission, le mois d'après, j'ai fait la demande de visa long séjour ascendant à charge de français. Ils m'ont accepté. 6 mois. Mmh. Et arrive à Grenoble, elle a eu une carte séjour de 10 ans.
Bon, écoutez, comme quoi l'intervention à la radio n'est pas inutile. Si
champion du monde,
oui, si ça a pu, vous aider, c'est tant mieux.
Oui, j'y croyais pas trop au début, parce qu'on m'a dit pour les Tunisiens c'est difficile, et ils acceptent plus pour les Algériens. Mais tout est bien passé, elle est très contente, elle a tous ses droits. Et en fait, c'était vraiment, même pour moi, en tant qu'un visa touristique, c'était le parcours du combattant.
Vraiment, ça, c'est bien d'avoir ce genre de retour. Ouais, franchement, ouais. Ça fait plaisir. Donc, comme quoi, on n'est pas en train de blablater pour rien. Et que ça porte parfois ses fruits. Alors, pas toujours, évidemment, malheureusement. Mais ça porte parfois ses fruits. C'est tant mieux, monsieur, si ça a été dans votre sens et dans le sens de l'intéressé.
À chaque fois, je dis que j'appelle. Et là,
écoutez, en tout cas, c'est gentil. Et honnêtement, ça fait plaisir.
Bon, ben, je vous remercie encore, Maître
Serran. Merci à vous pour cet appel.
Bonne journée.
Merci bien.
Ah, c'était juste pour dire ça. Il n'y avait même pas de questions, rien.
Ah, ben, c'est magnifique, ça, Karim.
Ouais. Ouais. Merci, c'était, Karim. Voilà, c'était vraiment, je veux dire, vous voulez, voilà, quoi, c'est qu'en fait, voilà, ça existe, ça marche, et voilà, quoi, c'est, faut pas baisser les bras, quoi. Faut essayer, faut toujours essayer. Bon, surtout la belle-mère est contente, quoi.
C'est bah, voilà. Et vous, et vous, Karim, alors, au fait, est-ce que vous êtes content de l'avoir fait venir?
Oui, bien sûr, elle vit chez nous et tout, ouais. Elle fait des va-et-vient, oh, ben, voilà. Pour moi, voilà, c'est une pratique pour tout le monde, quoi. Elle a eu deux filles qu'elle a élevées, elle vit là-bas toute seule, sans ressources, sans personne, donc, et là, elle a ses filles, une fille qui vit à Saint-Denis et une fille qui vit avec moi à Grenoble, donc voilà, quoi.
Parfait.
Bon, donc, bah, tout le monde est heureux.
C'est voilà, exactement. Voilà. C'est une belle histoire. Merci, en tout cas, de l'avoir partagé avec nous, Karim.
Allez, bah, bonne journée, plaisir à vous.
À vous aussi, Karim.
Merci, Karim.
Au revoir.
Votre modestie va en prendre un coup, Maître Serran.
Ouais. Ah. Ça fait plaisir quand même d'entendre ça.
C'est utile.
Ouais, complètement.
En plus, c'est gratuit, là.
Ouais, complètement.
En plus, c'est des choses que vous donnez gratuitement. Parce que d'habitude, c'est cher.
Enfin, c'est pas cher, c'est mérité surtout. Il faut raisonner par le mérite. C'est pas, on se dit pas est-ce qu'il est cher ou pas.
Non.
Est-ce qu'il le mérite.
D'accord, c'est ça. Voilà. Bon. Alors, on a Ratiba qui est avec nous. Ratiba, bonjour et bienvenue.
Allô?
Oui, Ratiba, bienvenue.
Oui, bonjour, bon ramadan pour tout le monde.
Merci
Ratiba.
Je vous appelle parce que j'ai deux questions, s'il vous plaît.
Mm-hmm. Allez-y.
La première, c'est que mon père, il est né en Algérie en 1945. Et à ce moment-là, on savait tous que l'Algérie, c'était française. L'Algérie, c'était français, c'est ça. Mm-hmm. Et je me demande, est-ce que c'est possible de faire les papiers pour mon père tant que, en ce moment-là, c'était l'Algérie française.
Alors, c'est l'éternelle question, en fait. Il n'y a pas d'automaticité. C'est-à-dire que les autorités françaises vérifient si la personne bénéficiait du droit du sol. C'est-à-dire que les Algériens étaient considérés comme français, mais pour faire simple, entre guillemets, comme des sous-français. Sous-français, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces Algériens-là, en qualité, entre guillemets, de sous-français, ne peuvent pas ou ne pouvaient pas transmettre leur nationalité. Vous voyez, c'est-à-dire qu'à l'indépendance, on considère que ces personnes, sont devenues de nationalité algérienne et donc elles ne transmettent pas cette nationalité française du temps de la colonisation. Mais pour être certain d'être fixé sur un plan purement juridique, alors d'abord, est-ce que votre père a une pièce d'identité, enfin une vieille pièce d'identité française?
Non.
Non,
non.
Bon, en gros, le document qu'il a, c'est son acte de naissance, donc qui établit qu'il est né pendant la période de l'Algérie française. Alors, dans le doute quand même, s'il y a que ça... il arrive parfois de saisir les services compétents. Là, votre papa, il est où? Il est au pays?
En Algérie.
Alors, c'est dans ce cas-là le service de la nationalité française qui se situe au tribunal judiciaire de Paris. On dit qu'il y a une compétence exclusive. C'est-à-dire que pour toutes les personnes qui sont à l'étranger, et donc notamment en Algérie, il n'y a que ce service-là, ce service de la nationalité à Paris, qui est compétent, qui peut traiter le dossier. Donc la demande doit être faite auprès de ce service. Et ce service, alors, va vous apporter une réponse, alors positive ou négative. Ils peuvent vous demander de compléter le dossier. Alors, si la réponse est négative, vous pouvez toujours contester si c'est pas suffisamment motivé, c'est-à-dire s'ils donnent pas d'explication pour dire, bah non, écoutez, il peut pas être français pour telle ou telle raison, mais c'est toujours contestable. Et ensuite, si vous contestez cette décision, c'est toujours à Paris, mais c'est le tribunal. On appelle ça le tribunal judiciaire. Et puis, le service de la nationalité peut, c'est pas exclure, dire, bah oui, ok, effectivement, ce monsieur est considéré comme français.
D'accord.
Mais donc, il faut saisir ce service-là. Hein, il n'y a pas d'autre option.
D'accord. Maintenant, je vais aller à Paris pour faire une demande, c'est ça,
vous pouvez envoyer un courrier. Voilà, vous trouverez sur Internet très facilement l'adresse du service de la nationalité. il faut envoyer les alors faire un petit passage explicatif pour dire voilà, mon père est né en telle année, telle période, et avec la l'extrait d'acte de naissance de monsieur, en justifiant qu'il demeure toujours sur le territoire algérien. Ils vont vous renvoyer, quand vous allez les saisir, ils vont vous renvoyer un formulaire particulier, un formulaire de chez eux. Il faudra à nouveau renvoyer quand même ce formulaire.
D'accord.
Voilà. Et puis, alors, même chose, hein, vous envoyez tout ça en courrier recommandé avec accusé de réception, hein, pour être certain que ça a bien été réceptionné. Et puis, il va falloir attendre la réponse. Ils sont pas très pressés, hein, pour apporter les réponses. Il faut faire attention à ça. Et ils mettent même de plus en plus de temps. Alors non pas parce que ces services seraient composés par des feignants, mais il y a eu une explosion des demandes de certificats de nationalité française par notamment les Algériens. Donc ils prennent le temps d'examiner tout ça. C'est-à-dire que quand ils vous répondent dans un délai d'un an et demi, parfois jusqu'à 2 ans, c'est un délai, alors qui peut sembler insupportable, c'est un délai normal.
D'accord.
Voilà, ils mettent beaucoup de temps. Mais je le redis, parce qu'ils ont beaucoup de boulot, il y a beaucoup de vérifs à faire. Donc, et il n'y a pas suffisamment de personnel. Donc voilà, hein, il faut pas être pressé quand on fait ce type de procédure.
D'accord. Ma deuxième question, c'est pour un cousin, pareil. C'est le même cas que mon père, mais juste lui, il a la nationalité déjà. Il a la nationalité, il est décédé, ses enfants, ils veulent faire la nationalité pour eux, mais le dossier, il était refusé.
Ouais. Pour quel motif ? Ils ont
fait les démarches en Algérie. Et ils cherchent quelqu'un ici en France pour que...
Bah, ce qu'il faudrait, c'est comprendre pour quelle raison ils l'ont refusé. Donc voyez éventuellement si l'intéressé peut m'envoyer peut-être le courrier de refus pour voir.
Oui.
Encore une fois, on parle de motivation pour voir si c'est justifié ou pas, si c'est contestable ou pas. Donc faudrait commencer par ça.
D'accord. Je peux avoir votre numéro?
Ouais, vous avez de quoi noter?
Je crois qu'elle allait dire votre numéro de carte bleue ou de sécurité sociale.
Numéro de carte bleue, ouais, carte je peux bleue. Le donner. Ouais. Enfin, je ne certifie pas que ce sera le bon, mais je peux en donner un. Donc vous avez de quoi noter. Alors, 06.
Oui.
62.
Oui.
58.
Oui.
59.
59.
64.
64.
Bah, 06, 62. 58, 59, 64.
Merci beaucoup, Maître Serin.
Merci à vous pour votre appel.
Oui. Merci, merci, Ratiba.
À tout le monde.
Au revoir.
Et c'est le mec.
Alors, est-ce qu'on a le temps de prendre un autre auditeur, là? Oui, alors on peut aller accueillir Nora, qui est avec nous. Nora, bonjour et bienvenue. Vous avez 4 minutes avec Maître Serin.
Allô?
Oui, Nora.
Bonjour, ou salam alaikum.
Alaikum salam, Nora.
Bonjour, Nora. Ou ramdankum karim, inshallah. Juste une question très très léger. J'ai la femme de mon frère là-bas en Algérie. Mm-hmm. Elle a son grand-père, il a la pièce d'identité française.
Ouais.
Alors, elle demande si elle a le droit pour les papiers pour elle.
Alors, même réponse qu'à l'auditrice précédente, c'est-à-dire que il faut savoir que si vous avez eu un grand-père, un arrière-grand-père qui bénéficiait de la nationalité française, il y a toujours la possibilité de saisir le service sur la base de ces éléments-là et dire mon arrière-grand-père, mon grand-père était français, est-ce que moi je suis considéré aussi comme française? Là encore, il n'y a jamais d'automatisme, donc c'est pour ça que ce ne serait pas sérieux de vous répondre, écoutez, oui ou non, mais parce qu'il faut que l'avocat se base sur un certain nombre de documents, mais la procédure évidemment est tout à fait envisageable. Et on demandera les actes d'état civil de son grand-père, les actes d'état civil ensuite du père de votre ami, et puis ces actes d'état civil à elle pour établir ce qu'on appelle la filiation. Et à partir de là, effectivement, on a des personnes, des enfants, des petits-enfants qui se voient attribuer la nationalité française du grand-père ou de l'arrière-grand-père.
Et là, Nora, elle s'envoie. Oui, Nora.
La photocopie, elle m'a envoyé la photocopie pendant quand elle a délivré la carte de pièce d'identité à son grand-père. La date définie, c'est 1970. Et lui, maintenant, il est décédé.
Ouais.
Alors, elle garde la pièce d'identité comme un justificatif.
Voilà, ce sont ces documents-là qui seront demandés et qui devront être fournis au service.
D'accord. Alors, on va faire un courrier avec accusé de réception pour la préfecture de Paris.
Non, c'est pas la préfecture de Paris. Alors, elle habite où, votre amie ?
À Batna, en Algérie.
Alors, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le service de la nationalité à Paris.
D'accord.
Ouais, mais c'est le service de la nationalité, c'est pas la préfecture.
Service de la nationalité qu'on trouve où, Maître Serran ?
C'est au niveau du palais de justice de Paris.
D'accord. Voilà, pour tout le monde, regardez sur Internet, service vous trouvez la nationalité. Voilà,
au niveau du palais de justice de Paris, et puis c'est ce service qui s'occupe de toutes les personnes qui sont à l'étranger.
Est-ce que c'est une procédure dans laquelle il faut recourir à un avocat ?
Alors, l'avocat n'est pas obligatoire, mais c'est un service qui est extrêmement pénible. C'est-à-dire qu'il faut savoir parler leur langue. Mmh. Et il est honnêtement fortement conseillé. Parce que même avec un avocat, c'est un service qui est un peu chiant. Mmh. Donc, parce qu'ils veulent pas...
Est-ce que vous connaissez un bon avocat, par exemple ?
Alors, j'en ai un qui est très bon, qui s'appelle Maître Serran. Alors, je parle de mon frère aussi.
Ah oui,
mais
Mohamed.
Voilà. Mais, vous l'aurez compris, je suis également Maître Serran. Enfin, voilà, ça fait quelque temps qu'on officie tous les deux. J'espère que vous le savez. Donc, faut pas hésiter à m'appeler si nécessaire.
Enfin, un travail de groupe pour les Serran. Hein.
Absolument.
Bien, très bien. Merci, Nora, pour votre question, Maître Serran. On vous retrouve vendredi prochain. Bon, vous voyez, là, il est 9h54. Là, vous tenez le bon bout, Maître Serran.
Ouais, hein, là, je vais faire mes rendez-vous et je vais aller me coucher un peu.
9h54, ouais.
C'est pas bien ce que vous faites.
Non.
Vous faites un peu le chétan, là.
C'est vrai
C'est haram, ça. Hein.
Ouais. Ah ouais.
Je crois que vous pouvez aller prendre un petit chocolat.
C'est vrai avec vous à la cafétéria
ouais, j'ai oublié, on va le prendre ensemble.
On y va. Et avec l'imam, on se rejoint pour le goûter. On vous retrouve en tout cas ce soir à partir de 19h pour Ramadan & Co. Et nous allons parler d'un sujet que vous êtes nombreux à nous avoir demandé. C'est les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies sont-elles licites ou pas? Et on verra dans quel cas. Donc ce soir, à partir de 19h, et bien sûr avec l'ADEN en direct. À tout à l'heure.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.